Une question, vous avez quelle heure sur vos montres ce matin, s'il vous plaît? Qui peut me donner l'heure, s'il vous plaît? 37? 40? Qui offre mieux? Qui a mieux? Ce matin, j'aimerais vous parler de la nécessité de régler vos montres, car l'heure du rendez-vous approche. Il est question pour nous, vous savez, d'être à l'heure. La parole de Dieu dit qu'au moment venu, ce ne sera ni un instant plus tôt, ni un instant plus tard. Au moment venu, est-ce que nous sommes prêts à être à l'heure, au rendez-vous avec notre Seigneur? Ce matin, j'aimerais faire un parallèle avec vous. Et le premier texte que nous allons lire, c'est celui qui se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1, qui dit « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », c'est alors que soudainement la ruine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour ce que ce jour suprême vous surprenne, pardon, comme un voleur. Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Ne nous sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi le casque de l'espérance et du salut. Car Dieu nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormons, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi donc, exhortez-vous mutuellement et édifiez-vous l'un l'autre comme vous le faites déjà. Amen. J'aimerais ce matin m'entretenir sur la question pour nous de retenir que le jour du Seigneur approche. Qu'est-ce qui nous permet de dire ce genre de choses? Il y a quelques soirs de cela, j'étais en entretien avec une personne en train de discuter. Elle me disait, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que la fin des temps est proche? Les questions se posent. Et personnellement, j'ai la conviction que le temps et le retour du Christ se rapprochent de plus en plus et ça va de plus en plus vite. Pourquoi? Parce qu'on a tout un ensemble d'éléments qui nous montrent en réalité la rapidité avec laquelle les choses se mettent en place, mais aussi les différents facteurs dont la parole de Dieu nous dit de garder et de vérifier pour la manière où le monde se prépare. Le premier élément qui m'interpelle, c'est la manière où aujourd'hui le monde se détourne de plus en plus des lois de Dieu. Le péché augmente. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. On pourrait dire, mais ça a toujours existé. Mais c'est de pire en pire. La parole de Dieu nous parle des guerres, des bruits de guerre, toujours plus proches, comme les douleurs de l'enfantement. Et qu'est-ce qu'on peut dire aussi des cataclysmes et de tout ce qui se passe dans la terre? Aujourd'hui, nous sommes certes informés, je dirais, à l'instant. Il y a un tremblement de terre à un endroit, on le sait à l'instant. On est informé parce qu'on s'est donné les moyens en tant qu'être humain, on s'est donné les moyens pour savoir tout de tous. Et moi je me dis, dans un monde où tout le monde veut tout savoir, n'est-il pas important que nous sachions ce que Dieu a à nous dire? N'est-il pas plus important pour nous, puisque nous savons, et la parole de Dieu nous a déjà décrit les événements à venir, d'être prêts? Alors, tout à l'heure, je vous ai posé la question de l'heure sur vos montres. Mais vous savez, en réalité, parfois même spirituellement, on a un peu un décalage entre les uns et les autres. C'est vrai ou pas? Et parfois, dans la même famille, on n'a pas le même horaire. On n'a pas le même rythme. On n'a pas la même vision. Et moi, je dirais que celui qui est davantage fortifié dans la foi se doit d'aider l'autre à rattraper le retard. Est-il possible de rattraper le retard? Moi, je crois que oui, avec la grâce de Dieu. Certes, il faut la grâce de Dieu. Le texte dit, pour ce qui est du temps et du moment, on n'a pas besoin, frères et sœurs, de le dire, de le savoir, parce que ça, ce n'est pas en réalité ce qui nous importe en premier. La question pour nous, c'est d'être prêt. Et regardez, il dit la parole de Dieu que le jour du Seigneur approche, comme les douleurs de la femme enceinte. Et il dit, pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu, ils n'échapperont point. C'est terrible tout ça, non? N'est-il pas triste de voir ce genre de situation? Alors j'aimerais faire un parallèle avec 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 et 11. 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 et 11. Et on a deux personnalités différentes. L'apôtre Paul, qui est très technique dans ses propos. D'ailleurs, Pierre, il le dira, tout ce qu'il écrit, il est très bien, même si on ne comprend pas toujours, mais c'est très bien. Et Pierre, c'est un homme que lui ne sait pas écrire. Mais c'est un homme dont le cœur est attaché à Dieu et Dieu lui révèle des choses et quelqu'un sera un peu ce scribe pour mettre sur papyrus ce que Dieu a donné à Pierre. Mais si on prend le texte de Paul et le texte de Pierre, on voit qu'il n'y a pas de confusion, il n'y a pas d'incohérence. Mais les deux nous éclairent de plus en plus sur à quelle heure on est. Il dit, 2 Pierre chapitre 3, versets 10 et 11, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrassés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. » Premier élément de notre vie, frères et sœurs, pour nous mettre à l'heure du rendez-vous de Jésus-Christ. Si vous avez une montre analogique, sur une montre analogique, vous avez généralement une aiguille qui est celle qui marque les secondes, n'est-ce pas? Une qui marque les minutes et une qui marque les heures. Et il faut la lecture des trois pour avoir le bon horaire. Et la première chose que Dieu attend de voir dans notre vie, c'est qu'en règle, pas seulement vis-à-vis du regard du monde, mais déjà de notre vie spirituelle. Il est question pour nous de marcher avec une conduite de piété et de sainteté. Important. Il est important pour nous, frères et sœurs, d'être trouvés par le Seigneur quand il viendra, au moment venu, prêt. Avez-vous déjà raté un train ou un avion? À qui c'est arrivé? C'est moche. C'est horrible. C'est horrible de rater. De dire, mais je suis arrivé, il est parti, il ne m'a même pas donné le temps. Moi, je me rappelle d'un retour d'un voyage. J'arrive à l'aéroport de Paris. 40 minutes pour récupérer ma valise. Et je devais faire je ne sais pas quelle distance pour aller prendre mon bus pour rentrer finalement à la maison après 3 semaines. J'avais juste envie de rentrer à la maison, moi. Et je vois de loin ce bus partir. Et moi, avec ma valise pleine, j'en pouvais plus. Je courais, je criais, je dis « Arrête-toi ! Arrête-toi !» Mais le chauffeur, lui, ne m'écoutait pas. Et vous savez ce qui s'est passé ? Une dame, au rond-point, elle sort de sa voiture, elle va, elle frappe des coups de poing sur la porte du bus pour lui dire « Arrêtez-vous, il y a quelqu'un qui vous crie !» Et quand je suis arrivé près du bus, je disais, Madame, que Dieu vous bénisse. Et je suis monté dans mon bus. J'ai rentré ma valise. J'ai dit, Seigneur, merci, t'as envoyé un ange pour me secourir. Et je crois que c'est notre rôle, frères et sœurs, d'aider ceux qui sont peut-être avec un peu de retard, à rattraper ce retard. Et notre attitude, elle en est pour quelque chose. Dieu use de patience. Et le rôle de l'Église, c'est de crier à Dieu, de dire, Seigneur, use de patience. Seigneur, fais grâce. On pourrait être tenté de dire, Seigneur, on en a marre, allez, on part, c'est réglé, qui est là sur le train, il est sur le train, qui n'y est pas, il reste sur le quai, c'est sa faute, c'est pas la nôtre. Mais c'est pas ainsi que Dieu nous demande d'agir. Dieu nous demande d'agir avec une attitude, et on l'a lu, il est question pour nous de faire preuve de piété et de sainteté, parce que bientôt le temps de la dissolution de toutes les choses est proche. L'apôtre Paul dira, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. » Verset 4, verset 5, verset 6, il nous dit, « Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Est-ce qu'on est en train de veiller ? C'est dur de veiller quand le sommeil arrive, non ? Êtes-vous des grands ou des petits dormeurs ? Ah, j'en connais certains, les coups de canon, ils ne les réveillent pas. Hein ? Mais spirituellement, est-ce qu'on est en train d'être éveillé à tout ce qui se passe, à tout ce qu'on voit ? Est-ce qu'on regarde bien ce qui se produit ? Est-ce qu'on écoute ce que le monde est en train de dire ? Et ce que les enfants de Dieu devraient dire. Vous savez, quand Jésus a marché sur cette terre, pendant ce ministère, il disait que le royaume de Dieu s'était approché. Aujourd'hui, nous pouvons et nous devons dire au monde, le retour de Christ est proche. Préparez-vous. Jean-Baptiste sera cette voix dans le désert qui criera. Pourquoi aller dans le désert ? Il n'y aurait pas eu plus de monde dans la ville ? Vous savez, très fois, nous, la technique qui est la nôtre, c'est de se dire d'aller là où on pense qu'il y a plus de monde. La réalité, c'est que s'il allait dans le désert, c'est que ceux qui avaient vraiment besoin de Dieu étaient dans le désert. Désert moral, psychologique, spirituel, physique. Rejeté, comme on l'a été chacun d'entre nous avant de rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas ? N'étions pas nous-mêmes dans le désert ? Et combien il y en a aujourd'hui qui sont dans le désert ? On parle de désert médical. Avez-vous entendu parler de ça ? Qu'est-ce que ça veut dire un désert médical ? Dites-moi. Il n'y a pas assez de médecins. Mais savez-vous qu'il y a aussi un désert spirituel ? Et ça veut dire quoi ? Pas assez d'église. Et pourtant, le Seigneur ne nous a pas tous appelés à être des témoins. Ne devrait pas être notre souci premier de dire, Seigneur, qu'est-ce que ça serait merveilleux que dans chaque village, il y ait une église. Amen ? Qui annonce l'évangile, la vérité. N'est-ce pas ? Et pourtant, moi, je vois parfois des personnes faire 30, 40, 50. Moi, je me rappelle d'un couple qui venait alors qu'on était sur Besançon. Il faisait 120 km pour venir à l'église. 120 km pour venir à l'église et 120 pour rentrer chez eux. Et je me dis, Seigneur, c'est terrible qu'on en soit arrivé là. N'avons-nous pas, nous aussi, là, quelque chose à faire ? Et le texte nous dit, mais vous, frères, vous êtes enfants de la lumière. 2 Pierre chapitre 3, les versets 12 et 13. On continue notre lecture, on fait le parallèle entre les écrits de Paul et les écrits de Pierre. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, où les cieux enflammés se dissoudront, où les éléments embrasés se fendront, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Est-ce que vous avez jamais considéré que beaucoup aujourd'hui pensent que la vie se résume à bien manger, bien vivre, à éviter les problèmes, à éviter les histoires et éventuellement avoir un bon compte en banque ? Oui ? D'autres diront mangeons et buvons car après nous mourrons. Et parfois j'ai entendu dire que toute bonne chose... Vous avez entendu la même chose. Est-ce que vous le croyez ? Moi, je crois que quand on rencontre Dieu, on fait de Dieu notre Seigneur et notre Sauveur, ces bonnes choses n'ont pas une fin parce que sont éternelles. Par contre, les plaisirs de ce monde, oui, ils ont une fin. Et que si la vie se résumait à bien manger, à bien boire et entre guillemets avoir un bon compte en banque, vous m'excusez, mais il y a tellement de sujets de tristesse tout de suite après, la joie elle est jamais permanente, elle est toujours passagère, non? C'est combien, c'est quand les impôts? Hein? C'est bientôt, non? Hein, j'ai connu quelqu'un qui était tellement triste de donner ses sous à l'impôt qu'il attendait la nuit où il fallait, à minuit moins une minute, il mettait ses impôts. Il ne voulait pas les donner avant, ça lui faisait mal. Et pendant les jours qui suivaient, il n'était pas bien, il ne fallait pas trop lui parler. Il était malheureux. Il dit, je suis malheureux de devoir donner des sous comme ça. Après, il y a une logique, n'est-ce pas? Et ce qui doit être donné, doit être donné. Jésus dira à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et nous devons être exemplaires en tout cela. Mes frères et sœurs, vous voyez que les joies peuvent être parfois très courtes. Nous, il est question de vivre une vie éclairée. Il est question pour nous de nous attendre et de hâter l'avènement du jour du Seigneur. La nuit et les ténèbres ont une paternité déchue et vaincue. Font partie d'un événement qui est d'un environnement spirituel dont le temps arrive à la fin. Il est question de considérer que c'est un temps de sommeil spirituel et combien aujourd'hui dorment spirituellement. Mais en ce qui nous concerne, Dieu nous demande et nous invite à être la lumière et le jour. Donc, être le reflet d'une paternité puissante et victorieuse. Qui est le Dieu du salut? Qui est le Dieu du salut? Jésus. Est-ce que Jésus est vivant? Est-ce qu'il est victorieux? Et c'est cela qui doit se manifester dans notre vie. Il est question pour nous d'être dans ce temps d'attente et de discernement spirituel. Il est question pour nous d'être aussi dans ce temps de séparation d'avec les ténèbres et ses œuvres. Nous ne pouvons pas marcher avec, je dirais, des compromis. Il est question pour nous aussi d'un temps de témoignage par une vie éclairée et je dirais même éclairante, puisqu'il nous dit « Soyez la lumière du monde, brillez ». Alors ce soir, quand vous êtes à la maison, vous demandez à votre conjoint ou à quelqu'un de votre famille, une fois que la lumière est éteinte, est-ce que tu me vois? Et si ce n'est pas le cas, il faut faire l'effort de dire « Seigneur, je veux vraiment briller ». Mais de la gloire de Dieu, hein, pas question d'être illuminé. Il est question de briller de la lumière de Dieu dans toute situation. Même, frères et sœurs, excusez-moi, quand la lumière elle est éteinte, où on a parfois le sentiment que rien et personne ne peut nous voir. Il est question pour nous d'une vie qui soit cohérente vis-à-vis de Dieu, une vie aussi de combat. Il dira le texte de l'apôtre Paul au verset 8, « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, ainsi que le casque de l'espérance du salut. » Et Pierre nous dira en 2 Pierre chapitre 3 verset 14, « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, efforcez-vous d'être trouvés par lui sans tache et sans défaut dans la paix. » L'absence d'armure, frères et sœurs, c'est une absence de protection. De quoi doit être formée notre cuirasse? Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? L'apôtre Paul nous dit que la cuirasse de la foi et de l'amour, où nous en sommes avec notre cuirasse. Est-ce que la foi, elle est là? Parce que vous savez, s'il y a des défauts dans notre armure, c'est là que l'ennemi va frapper. Non? Quand David a terrassé Goliath, où est-ce qu'il a frappé? Oh, vous vous rappelez? Autrement, je vous renvoie tous à l'école du dimanche prochain. Hein? Au front, allez, c'est bien, voilà. Pourquoi il a pu terrasser Goliath en le frappant au front? Parce qu'il n'y avait pas de protection. Et nous, frères et sœurs, Dieu nous a donné le casque du salut pour que nos pensées soit bien protégé. N'est-ce pas? Mais de la même manière que David a su trouver par la grâce de Dieu le point faible du géant, croyez-moi, Satan, regarde quel est votre point faible. Et si votre point faible, c'est la paix, la foi, l'amour, l'espérance et autre chose, c'est là qu'il va toucher. Alors il est question pour nous, frères et sœurs, de vérifier qu'il n'y ait pas de défaut dans notre armure, pour que l'ennemi ne puisse pas s'en servir pour nous terrasser. J'aimerais aussi nous rappeler qu'une vie à l'heure, une vie à l'heure du rendez-vous avec Christ, c'est une question pour nous de savoir aussi qu'est-ce qui va se passer. Si l'apôtre Paul nous dit car Dieu nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous, afin que nous veillions ou que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors est-ce qu'il y a un problème entre dire que nous devons veiller et nous devons dormir? À la lecture de ce texte, on pourrait se dire, mais comment? D'abord, il nous dit de veiller, et après, il nous dit que c'est soit que nous veillons, soit que nous dormions. La question pour nous, c'est d'être trouvé prêt. Comment je peux être trouvé prêt si je dois veiller en dormant? Il est question pour nous de comprendre, frères et sœurs, que nous soyons encore vivants ou que nous soyons morts en Christ. L'important, c'est que nous soyons toujours dans cette attente du retour du Seigneur. Parce que le Seigneur est fidèle. Et d'ailleurs, Pierre dira, en 2 Pierre chapitre 3, versets 15 à 18, « Considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme le font du reste des Écritures, pour leur propre perdition. Vous donc, bien-aimés, qui êtes prévenus, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. Amen. Amen. Il est question, frères et sœurs, pour nous, de nous qui sommes prévenus, de nous garder prêts, de grandir dans la connaissance et de grandir aussi dans cette relation avec le Seigneur. Il est question pour nous de nous exhorter. Mon rôle ce matin, frères et sœurs, c'est de vous dire, et davantage, et je le répéterai jusqu'au dernier jour de ma vie, soyez à l'heure. Pas seulement en réunion. Ça, c'est déjà une bonne chose. Non? Mais surtout, ne ratez pas le retour de Christ. Parce que ceux qui attendent, ceux qui auront raté ce rendez-vous, ah ben le programme, il est terrible. Et il est question pour nous, frères et sœurs, de nous exhorter. Ça veut dire que si je vois un frère ou une sœur qui est un peu en retard, je me dois de prendre le temps de dire, mon frère, ma sœur, allez, viens, allez, remets à l'heure ta montre, reprends courage. Vous savez, il y a des moments dans notre vie où ça patine, non? On a l'impression qu'on court, mais ça avance pas. C'est comme ces tapis de gym, hein. Vous courez, vous êtes toujours sur place. Le tableau est toujours le même. Vous êtes fatigué à la fin, mais vous n'avez pas fait... Et il est question pour nous, frères et sœurs, de dire, Seigneur, donne-moi de ne pas patiner dans le vide. Seigneur, je ne veux pas me fatiguer dans le vide. Seigneur, je désire que ma vie avance. Alors, je voudrais terminer juste avec un texte. Celui de Matthieu chapitre 5, versets 14 à 16. Et les questions pour nous, frères et sœurs, en réalité, de comprendre quelle est la lumière que nous devons manifester, puisque nous sommes enfants de lumière. Première chose, puisque c'est Jésus qui nous en parle, il est question pour nous de manifester cette lumière et c'est une responsabilité. Il dit le texte, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pause. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Excusez-moi, frères et sœurs, des chrétiens qui se cachent, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils doivent être. Une église aujourd'hui qui se cache face à un monde qui se perd ne remplit plus sa fonction. Mais puisque les ténèbres avancent, nous devons être comme ce phare dans la nuit qui indique la bonne direction pour que les personnes ne soient pas en perdition par les vagues de ce monde amenées à se fracasser contre les rochers et les pièges que Satan a pu mettre. Alors certes, ça nous met en évidence. Certes, ça nous expose, mais est-ce que le Seigneur ne nous a pas avertis de tout cela? Est-ce que Jésus a évité de s'exposer? Est-ce que Jésus, en voyant ce qui l'attendait à Jérusalem, est-ce qu'il a pris la direction opposée? Non. Il a dit, je vais. Je vais accomplir la volonté de mon Père. Je vais. Et l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, frères et sœurs, elle se doit d'être cette lumière du monde. Pas seulement l'Église, parce qu'on pourrait dire c'est le rôle de l'Église. Mais l'Église, c'est qui? Eh, c'est bien, ma sœur. Ben oui. C'est facile de dire c'est nous. Armons-nous et partez. Vous connaissez ça? Hein? Armons-nous, partez. Non, c'est question de dire, nous avons cette responsabilité. On continue. L'œuvre de Christ, l'Église, ne peut être cachée. Deuxième chose. Nous a pas donné pour but de faire de nous les bénéficiaires au détriment des autres membres de la maison. Regardez. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le buisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle brille pour tous ceux qui sont... Waouh! Frères et sœurs, je vous ai dit tout à l'heure, c'est à vous d'aider votre famille à mettre, excusez-moi, les pendules à l'heure. Et cela ne peut se faire qu'en brillant dans votre maison. Ah, mais c'est pas facile! Pasteur, si tu savais combien mon mari est dur, c'est une tête de Calabré. Ou de Sicilien, ou de... J'ai entendu pour toutes les nationalités. Hein. Il a une tête de Belge. Il est dur. Il ne comprend pas. Il n'entend pas. Et moi, un jour, je me rappelle d'un entretien que j'ai eu avec un monsieur. J'étais à Saint-Dié. Et cet homme, il vient, il me parle de sa femme. La pauvre sœur, elle était juste à côté. Ah, pasteur, ma femme, si vous saviez. Elle est comme ci. Elle est comme ça. Et il m'a fait un tableau, la pauvre, elle ne savait plus où elle devait se cacher. Et à la fin, je le regarde, je lui dis, vous savez, frère, Dieu vous a donné ce que vous aviez vraiment besoin. Sur ce, méditez. Moi, je crois que, certes, il y a des choses dans lesquelles on doit attendre le changement dans l'autre. Mais si Dieu nous a donné, ça veut dire qu'il nous a donné aussi les capacités et nous devons chercher auprès de Dieu la patience pour faire aboutir le plan de salut pour eux. Alors, frères et sœurs, brillons dans notre famille, même si ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Mais vous savez, commençons par les petites choses. Parce que souvent, on regarde aux belles choses, aux grandes choses et on oublie qu'il est question de briller déjà dans les petites choses. On continue. Il est question pour nous d'être une source de lumière parmi nos frères et sœurs dans l'Église. D'ailleurs, si vous relisez bien le texte, il est question, au verset 16, il dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, ça veut dire que je dois briller dans ma famille, je dois briller dans l'Église, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord jusque-là? Mais il est question de briller aussi devant les hommes. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit que l'Église n'est pas faite pour rester enfermée dans les ténèbres. Gardons-nous de devenir des chrétiens qui se renferment sur eux-mêmes. Dieu ne nous a pas fait pour nous mettre sous cloche. Amen. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes. De qui il parle? Il parle du monde. Et c'est ça qui fera qu'à un certain moment, il voit nos œuvres bonnes et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Alors attention, j'ai noté cela dans mes écrits. L'autocertification n'a pas de valeur. Ah, qu'est-ce que je suis brillant. L'auto-attestation, encore moins. Ce qui va véritablement, frères et sœurs, être une preuve devant Dieu que vous avez brillé pour votre Seigneur, c'est que le monde vous voit et vous reconnaît autant qu'enfant de lumière. Je termine par cela. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Frères et sœurs, soyons prêts que le Seigneur, à son retour, ne trouve pas une église endormie, assoupie. Que le Seigneur nous retrouve, frères et sœurs, à l'ouvrage. Et que Dieu soit glorifié dans la vie de chacun. On va incliner nos têtes et on va prier quelques instants. Seigneur, ce matin, si tu permets que nous partageons ces textes, c'est parce que tu désires, Seigneur, que chacun de nous puisse, dans sa vie personnelle, remettre, Seigneur, les pendules à l'heure. Seigneur, être à l'unisson, Seigneur, avec le timing qui est le tien. Seigneur, au moment où toi, tu viendras, Seigneur, une seconde de retard, ça sera trop. Ta parole nous dit qu'au son de la trompette, en un instant, Seigneur, une seconde de retard, c'est trop. Tu es un Dieu précis. Donne-nous, Seigneur, de rentrer pleinement, Seigneur, dans la précision qui est la tienne. Seigneur, donne-nous d'être ces hommes et ces femmes qui brillent de la lumière de Christ. Nous n'avons pas de lumière personnelle, Seigneur. Nous pouvons être que le reflet de celui qui brille et qui brille pour toute éternité. Seigneur, nous voulons être vraiment témoins. Seigneur, mais en même temps, Seigneur, nous savons la responsabilité et nous prenons conscience, Seigneur, aussi des dangers auxquels nous sommes exposés. Et c'est pour cela que tu nous as fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Seigneur, merci d'être celui qui fortifie chacun de nous, Seigneur, là où nous sommes, que ce soit dans le cadre familial, dans le couple, Seigneur, dans le lieu de travail et dans l'Église, que nous puissions tous, Seigneur, avec ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, briller pour toi. Seigneur, ceux qui ont peut-être perdu un peu d'éclat, Seigneur, parce que touchés par différentes situations, je te prie, Seigneur, viens tout à nouveau, Seigneur, viens tout à nouveau éclairer leur vie. Embraser leur cœur, redonne-leur courage, redonne-leur force, Seigneur. Toi seul es capable de le faire. Seigneur, nous te bénissons et nous te glorifions pour les projets merveilleux que tu as, Seigneur, pour ton peuple. Et nous avons hâte de nous retrouver avec toi dans le ciel et pour l'éternité. À toi toute la gloire et l'honneur, au siècle des siècles. Amen.